Merci beaucoup pour cette première présentation qui a été en plus dans un timing idéal. Nous allons demander à partir un peu plus vers le nord encore, exactement le bout de la France, pour demander à Pierre Thomas qui va venir comme PUPH nous expliquer ici une présentation sur le suicide, sur le modèle français de prévention. Merci.
Bien, bonjour à tous. Merci Philippe pour cette présentation. Merci à Pascal Mariotti pour l'invitation à venir vous parler ici. Alors, je serai ici au titre, si on pouvait lancer le diaporama, s'il vous plaît. Ah, donc on va être obligé d'attendre une minute. Qui ne sera pas décompté. Bon, juste... ouais, on peut, voilà, on peut chanter. Bon, en tout cas... juste pour commencer, en fait, je suis ici au titre de ma participation à un groupe de travail sur la prévention du suicide, un groupe de travail qui a été que j'ai copiloté avec Laure Salomé de la Direction générale de la Santé, dans le cadre d'abord du Conseil national de santé mentale, qui avait été piloté par Alain Ehrenberg, et les travaux de ce groupe continue actuellement, et ma proposition ici était de vous en faire, de vous en faire un peu une présentation globale. D'autant plus que certaines des propositions de ce groupe de travail ont été adoptées par la ministre de la Santé. Et on a fait état lors du discours qu'elle a fait cette année lors du congrès de l'Encéphale sur la prévention du suicide. Voilà. Alors le suicide, là je pense que vous le savez, enfin, là aussi on parle d'état d'urgence depuis un certain temps, pas simplement sur le territoire français mais au niveau mondial. Il y a eu un rapport qui a été réalisé par l'OMS qui a été publié en 2015 montrant que cette problématique est mondiale, que bien sûr il y avait des variations dans les chiffres sur le plan international, mais qu'il fallait aussi pouvoir tenir compte de ces variations pour peut-être générer des idées en termes de prévention avec des initiatives qui sont de part et d'autre de la planète tout à fait intéressantes. En France, c'est aussi l'état d'urgence et la France a même une position au sein de l'Europe qui peut montrer un certain retard dans la prévention du suicide au regard des chiffres qui existent. Vous le savez, c'est un décès toutes les heures par suicide en France, une tentative de suicide toutes les 4 minutes. Le suicide, c'est bien sûr un problème de santé publique en termes de nombre, de chiffres, de retentissement. Je vais y revenir. C'est un drame personnel, un vécu d'isolement tout à fait important et une souffrance pour la personne et bien sûr pour son entourage. C'est aussi quelque chose qui peut être évité et ça, il y a pas mal d'arguments pour aller dans ce sens-là. Alors, on a en France des chiffres, vous voyez, en 2012, un peu plus de 10 000 décès par suicide. En 2013, puisqu'on a les chiffres un petit peu en décalage, les véritables chiffres en décalage, une très légère diminution, c'est-à-dire qu'on est passé à 9 653 décès en 2013, mais on n'a pas assisté, et apparemment, actuellement, on n'a toujours pas assisté à une nette cassure dans le nombre des suicides, dans la courbe, qui est quelque chose qui est observé dans d'autres pays. C'est 29 décès par jour, on peut le dire. De toute façon, il y a une comparaison qui est souvent faite, celle avec les accidents sur la voie publique. Actuellement, il y en a 9, mais vous savez que la mortalité sur les routes était aussi de l'ordre de 10 000 dans les années 70 et qu'un certain nombre de mesures de prévention ont permis de façon tout à fait efficace à diminuer la mortalité sur les routes. Et l'idée, c'est qu'il peut en être de même pour la prévention du suicide. Autre chiffre qui permet de mesurer l'ampleur du problème, un suicide, c'est en moyenne 7 personnes qui sont endeuillées, et endeuillées de façon tout à fait considérable, avec des répercussions en termes de consommation de soins, en termes de souffrance, en termes d'absentéisme, etc., et 26 personnes impactées. Ça, ce sont des chiffres moyens, donc on voit aussi le dégât que peuvent provoquer le suicide. Sur un plan purement médico-économique, le coût sociétal d'un suicide, c'est 350 000 euros. 350 000 euros, vous imaginez, si on pouvait ne serait-ce que dépenser une somme relativement raisonnable pour la prévention du suicide, vous voyez comment on peut imaginer une balance tout à fait positive en termes médico-économiques. Et puis, des travaux qui ont été menés partout dans le monde nous ramènent des données qui sont les mêmes. On connaît maintenant les facteurs qui permettent de, soit de protéger, soit qui sont des facteurs de risque de suicide. On sait que voilà, il y a une répartition homme-femme que vous connaissez, 3 hommes pour une femme. Mais surtout, un fait important, c'est que 90% des personnes qui décèdent de suicide, eh bien, souffraient d'un trouble psychiatrique et que pour la plupart d'entre eux, pour 70%, eh bien, il s'agissait d'une dépression. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose dont il faut tenir compte. Que les maladies mentales, les maladies psychiatriques que nous connaissons, les grands troubles psychiatriques, eh bien, là aussi, beaucoup de personnes qui en souffrent, eh bien, malheureusement, décéderont par suicide dans le cadre de cette maladie. Et puis d'autres données, l'alcool, qui pourrait mesurer. En tout cas, tout ça nous amène à pouvoir réfléchir sur des stratégies de prévention et de développer des ressources pour diminuer cette courbe du suicide. Le groupe de travail s'est appuyé sur le rapport, un rapport qui a été publié par le Haut Conseil de Santé publique en 2016, qui analyse un petit peu, qui faisait le bilan de l'ensemble des politiques ou de l'action publique qui avait été menée jusque-là pour diminuer le suicide en France. Et en fait, les conclusions sont extrêmement intéressantes parce qu'elles relèvent les limites des actions qui ont pu être menées, et notamment par le dernier plan national d'action contre le suicide. Et ce qui revient en avant et ce qui semble être le message le plus important de ce rapport, c'est que les politiques de prévention n'ont jusque-là pas été ciblées sur les populations les plus vulnérables. Qu'il pouvait y avoir des mesures qui étaient des mesures générales visant à améliorer la santé mentale de l'ensemble de la population, mais il n'y a pas eu d'action spécifique sur les populations qui pouvaient être identifiées comme à risque de suicide. Et c'est là-dessus, et c'est sur cette idée-là que les travaux de notre groupe sont partis. Bien sûr, d'autres aspects avaient été soulignés. L'absence d'objectifs chiffrés en termes de diminution de la suicidalité, c'est-à-dire de tentatives de suicide, de mortalité par suicide, avec des objectifs clairs. Des actions qui avait aussi insuffisamment impliqué les premières lignes, les personnes qui, par leur profession, sont en contact des personnes à haut risque suicidaire. Bien sûr, les médecins généralistes, mais pas que, un certain nombre de personnes qui travaillent au contact de populations vulnérables. Donc, et puis, bien sûr, absence de financement dédié, d'actions non suffisamment concertées, parce qu'il n'y a pas que le domaine de la santé, il y a des mondes et des univers qui sont concernés, et puis une implication insuffisante au niveau régional, des agences régionales sur la mise en réseau, les coopérations, et pas suffisamment d'implication, en tout cas perçue par les ARS comme telles. Donc c'est un petit peu sur ces bases que nous avons avancé, en s'appuyant sur des données qui sont des données probantes, d'abord sur les stratégies qui, jusqu'à maintenant, ont fait preuve de leur efficacité en termes de prévention du suicide. On sait, là, il y a des données extrêmement solides que montrer que diminuer l'accès aux moyens létals est quelque chose de tout à fait évident. Bien sûr, c'est la détention, la possession d'armes, mais c'est aussi l'accès sur les ponts sur lesquels on peut se suicider ou l'accès sur certaines zones ferroviaires, etc. Le maintien d'un contact avec les personnes à risque, et on sait à quel point, dans le suicide, le besoin de créer ou de maintenir et d'entretenir des liens est quelque chose d'essentiel, qui est vraiment le cœur de l'activité dans la prévention, que l'organisation des soins et s'organiser autour d'interventions efficaces et donc qu'il y ait une coopération entre les différents acteurs et professionnels est tout à fait essentielle, la formation des professionnels et la prévention de la contagion suicidaire. Je vais revenir sur cet aspect qui est tout à fait particulier. Et donc, on connaît, il y a énormément de données sur les facteurs de risque qui sont impliqués dans le suicide. Facteur de risque veut dire que, eh bien, tel ce qui se passe, l'isolement social, la crise économique, chacun vont multiplier le risque de faire une tentative de suicide ou voire de décider par suicide. Mais vous voyez que c'est extrêmement large. Il y a des facteurs qui sont liés à l'écosystème, d'autres qui sont liés à l'organisation, à l'implication, des facteurs qui sont plus individuels, voire même des facteurs génétiques. Et là aussi, il y a des données là-dessus. Mais le groupe de travail a souhaité se focaliser sur un moment tout à fait particulier, ce qui se passe chez un individu au moment où il va y avoir cette bascule vers la tentative de suicide et bien sûr le risque de décéder par suicide, ce qu'on appelle la crise suicidaire, et comment agir à ce moment-là. Donc là, on est proche de bien sûr, il y a le repérage, le dépistage, il y a l'intervention, et tous ces effets sont menés. C'est le plus important parce que le problème, et ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais avec le suicide, c'est qu'une fois que le suicide est fait, ben, quand quelqu'un est mort, c'est fini, quoi. On ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est quelque chose de tout à fait net, excusez-moi d'être aussi trivial, mais je crois que c'est tout à fait important à envisager. Ce qui n'empêche pas, après, de réfléchir sur l'ensemble des facteurs de risque qui sont décrits ici pour améliorer, bien sûr, des facteurs, faire de la promotion de la santé mentale de façon à améliorer les conditions, mais l'urgence se trouve ici si on veut diminuer la suicidalité. Les populations vulnérables, ben, on les connaît. Dans une population, on sait, par exemple, il y a des chiffres, des statistiques qui nous disent que, eh bien, sur 80 personnes qui vont avoir des idées suicidaires, des idéations suicidaires qui peuvent arriver dans des circonstances tout à fait variées, eh bien, il y en aura 10 qui vont passer à l'acte, faire une tentative de suicide, et 1 qui va décéder. Donc ça, c'est très schématique, mais ça permet aussi de se rendre compte que si on veut mener une politique de prévention, eh bien, c'est la prévention sera tout à fait différente et les actions à mener seront différentes si on veut lutter contre les idées suicidaires, lutter contre le passage à l'acte suicidaire, lutter contre le décès par suicide. On connaît aussi les facteurs de risque, on peut mesurer, on peut pondérer un certain nombre de choses. On sait par exemple que le facteur de risque, celui qui a le plus de poids dans le risque de faire une tentative de suicide ou de décéder par suicide, c'est d'avoir déjà fait une tentative de suicide. Donc on a de façon extrêmement claire une population vulnérable, les gens qui ont fait une tentative de suicide. Ce sont eux qui sont le plus à risque pour faire une récidive et décéder par suicide. Donc si on veut mener une action, ce sera auprès... Si on veut mener une action de promotion, ce sera bien sûr auprès de ces personnes. Et ça, c'est toute l'idée, tout le rationnel du dispositif de recontact des suicidants, de vigilance, hein, dispositif qui est en train de s'organiser au niveau national, puis qui a été annoncé là aussi par la ministre cette année. Et donc, vous voyez, les maladies mentales, les troubles psychiatriques sont bien sûr, ont un poids tout à fait important et donc désignent tout à fait naturellement des populations vulnérables sur lesquels il faut pouvoir travailler. Alors, voici ici, de façon très schématique, le fruit du travail de ce groupe, qui a été, donc, encore une fois, soutenu par la DGS. Et donc, la proposition était de proposer quelque chose qui soit sous la forme d'un kit. Alors, c'est un mot un peu... On n'est pas chez IKEA, mais enfin, c'est véritablement l'idée qui est là, c'est-à-dire de proposer un kit avec des composants qui vont proposer des actions qui seront menées sur telle ou telle population. Mais l'intérêt de ce kit, c'est qu'il soit justement rassemblé, combiné, pour que les actions soient concertées, elles soient complémentaires les unes aux autres, parce qu'elles sont, vous allez voir, elles sont très liées les unes aux autres, et qu'elles puissent aussi être territorialisée, c'est-à-dire mise en place, mise en opération, mise en œuvre par les ARS et les intervenants sur les territoires. Et donc, il s'agissait bien sûr d'inscrire la prévention du suicide dans la politique de santé. Donc ça a été fait, enfin, témoigne le discours de la ministre en début d'année, cibler les personnes les plus à risque, les suicidaires, les personnes qui ont ces idées suicidaires et qui sont, c'est loin d'être exceptionnel, et bien sûr les suicidants, et puis également fixer des objectifs de diminution et donc fixer cet objectif de cassure de la courbe de l'évolution des tentatives de suicide. Alors, vous voyez plusieurs composants. La formation au repérage, et au repérage de quoi ? Des personnes à risque, des personnes vulnérables, et au sein des personnes vulnérables, celles les plus à risque, et donc de la dépression, je vais revenir sur cet aspect-là. Prévenir la contagion suicidaire, faire la promotion du recontact des suicidants, et puis aussi proposer des dispositifs permettant d'améliorer les connaissances, et surtout les connaissances des ressources, et des ressources de proximité sur son territoire, dans sa région, et pas simplement au niveau national, avec là des outils, là le numéro unique, avec une ligne d'appel d'urgence, et puis aussi quelque chose qui permette une information au public. Donc, très brièvement, dans le temps qui reste, là, je vais vous décrire un petit peu les grandes lignes de chacune des composantes de ce kit. Alors, le maintien du contact avec les suicidants, donc ça, c'est un travail qui est relativement récent dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la psychiatrie et de la santé mentale. Vous voyez qu'il y a des précurseurs, un des précurseur, c'est moto, vous voyez, c'est 2001. Et peut-être vous l'avez déjà entendu, ce que je vais vous raconter de la bouche de Guillaume Veva, mais Moto est quelqu'un qui travaillait plutôt sur l'autopsie psychologique. Il filmait, il avait mis des caméras sur le pont du Golden Gate et filmait les gens qui se suicidaient et essayait d'après de retracer leur vie, etc. Et il raconte qu'une fois, il a retrouvé une lettre chez une personne qui s'était suicidée du Golden Gate et qui avait écrit que, voilà, il avait décidé de mettre fin à ses jours, qu'il allait se diriger vers le Golden Gate. Et il écrit que s'il rencontrait quelqu'un sur sa route qui lui faisait un sourire, il rentrait chez lui. Donc là, apparemment, il a rencontré personne qui lui a fait un sourire. Mais il s'est dit, finalement, il faut peu de choses. Il faut peu de choses, et le peu de choses, c'est du lien humain. Et donc, ce qui a donné l'idée de formaliser ce lien humain chez les gens à risque de suicide, et c'est là qu'il a commencé à proposer des lettres personnalisées aux personnes qui avaient fait une tentative de suicide, en disant des lettres toutes simples, qui, en substance, disaient je me soucie de vous, je pense à vous, etc. Et donc, il a développé une culture du souci de l'autre qui s'est développée et qui a montré son efficacité, parce que l'ensemble des dispositifs qui se sont mis en place autour de ça ont montré qu'il y avait une diminution de la suicidalité, que ce soit en tentative de suicide ou en TS. Et donc, sur le plan national, ici, c'est mon collègue et ami Guillaume Veva qui, à Lille, développe depuis des années cette problématique du recontact, etc., et a réussi à montrer sur une région, qui est une région peuplée, qui est le Nord-Pas-de-Calais, il y a 4 millions d'habitants, qu'en déployant ce dispositif sur les secteurs d'urgence, en collaboration avec les services et les secteurs de psychiatrie, en collaboration avec les médecins généralistes, de développer ce recontact des suicidants systématique, il a montré de façon très nette, comme on fait un essai médicamenteux, qu'il y avait une diminution de la suicidalité, diminution de la tentative de suicide et diminution de la mortalité par suicide. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, le groupe de travail a fait la promotion de ce dispositif de recontact et que là, comme l'a annoncé la ministre en début janvier, ce dispositif se déploie actuellement sur le plan national avec petit à petit plusieurs régions qui sont impliquées. Voici des exemples. Alors, c'est toujours un petit peu drôle de montrer des exemples. Vous voyez, c'est des cartes qui sont envoyées de façon systématique avec, je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais des recontacts qui sont différents selon les personnes qui sont primo-suicidantes ou multi-récidivistes, on va dire. Des cartes qui sont aussi personnalisées. Si ce sont des ados, ça va pas être des petites fleurs, ça va être des choses qui vont être un peu plus tendance manga, etc. Mais il y a un effort qui est fait aussi dans la créativité. Mais en tout cas, le principe reste le même, c'est de créer, garder, entretenir le lien avec la personne. Et là, ça a un effet qui est tout à fait intéressant et mesurable. Voici... Là aussi, sans rentrer dans le détail, les objectifs que s'est fixé l'équipe de Guillaume Veva et de vigilance sur la mortalité par suicide dans notre région en comparant. Et donc, Nord-Pas-de-Calais est une région dans laquelle la suicidalité est plus élevée. Et donc, avec des objectifs qui sont atteignables et tout à fait intéressants avec un service rendu à la communauté qui est important. Deuxième constituant du kit, c'est... déployer un dispositif de formation. Alors, il existe un dispositif de formation. Vous savez qu'il y a des formateurs nationaux, régionaux, en pyramide comme ça, qui existent actuellement. Il y a à peu près, on peut compter actuellement, c'est près de 20 000 personnes qui ont déjà été formées sur les formations. Vous savez qu'on a Séguin, Terra, je vous avais certainement entendu parler de ce dispositif de formation. Là, le groupe de travail a... proposer ce qu'on appelle un re-engineering de cette formation en s'appuyant essentiellement sur les compétences des personnes qui vont recevoir ces formations. Et peut-être une des critiques qu'on peut... une critique, c'est facile de critiquer sur un dispositif qui a bien sûr rendu des services, mais une critique, c'est que les personnes qui ont un rôle sentinelle, qui sont impliquées dans le repérage, ça peut être des surveillants de prison, ça peut être des instits, sont certainement très bons pour le repérage et il faut renforcer leurs compétences de repérage, mais ce qui est de l'évaluation, d'évaluer la gravité, ça, c'est une compétence qui est une compétence médicale, je ne veux pas dire que c'est uniquement réservé aux médecins, mais du d'une équipe médicale dans laquelle, bien sûr, il y a les infirmiers, il y a les psychologues, etc. Et donc, l'évaluation, eh bien, qui amène après à l'intervention, est quelque chose qui doit être emporté. Ce qui fait que cette formation, les sentinelles, eh bien, c'est des gens, il faut renforcer les compétences en repérage, et il faut surtout leur donner des solutions, des ressources, vers qui orienter, comment orienter. C'est ça qui est important, parce que repérer, tout le monde fait bien du repérage. Le problème, c'est quand on n'a pas de solution, quand on ne pense pas avoir de solution, il n'y a rien qui se fait, et c'est là que les situations... Donc, c'est surtout les clés et les ressources locales de proximité qui sont à... Donc il faut faire la promotion, et c'est dans cette orientation-là qu'est proposer ce re-engineering de la formation. Et puis, un focus particulier sur les professionnels de première ligne et les médecins généralistes. Et qu'il est important, et ça fait partie aussi du retour du Haut Conseil de Santé publique, la formation des médecins généralistes est essentielle, formation à la dépression. Et le groupe de travail a imaginé des dispositifs très originaux de formation des médecins généralistes, parce que c'est un peu illusoire de vouloir rassembler les médecins généralistes un soir ou un week-end, ou etc. Vous savez, enfin, que c'est assez difficile. Et s'appuyer sur des modes de formation qui ressembleraient à la visite médicale qui a été déployée, par exemple, par l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique a certainement eu des méthodes qui ont été efficaces. Et là, il peut y avoir une efficacité dans... De rencontres, hein, de formation auprès du médecin généraliste. Pourquoi la dépression ? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 70% des personnes qui décèdent par suicide souffraient de dépression. Et on sait que le risque est tout à fait important. Vous voyez, même en rémission partielle, même quand le syndrome dépressif n'est plus à son acmé, lorsqu'il persiste certains symptômes, on sait que même là, le risque de passage à l'acte suicidaire est important. Et puis, on connaît le décalage qui existe entre les besoins de soins, l'offre de soins, le fait que des dépressions soient prises en charge, traitées ou non. Le taux d'adéquation est encore un petit peu difficile. Troisième point qui a été proposé par ce groupe de travail, c'est la prévention de la contagion suicidaire. Alors, c'est le déploiement d'un programme qui s'appelle Papageno. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller visiter le site. Et en fait, c'est une action de santé publique, bien sûr, et qui s'appuie sur un certain nombre qui est théoriquement fondée, qui est tout à fait intéressante, et dont l'objectif est de limiter les effets de la contagion suicidaire. L'accès aux hotspots, par exemple, on a vu les ponts, certaines zones ferroviaires, les falaises, etc. Travailler aussi sur les réseaux sociaux dont on connaît, dont on mesure encore très très mal l'influence sur le risque suicidaire, mais enfin qui est une problématique lancée, et sur les populations vulnérables. Et comment ? Eh bien, en faisant la promotion de l'entraide, de l'accès aux soins, d'aller vers les ressources ou de donner plus de proximité aux ressources existantes. Alors le suicide est contagieux. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut... qui n'est peut-être pas une notion tout à fait habituelle, en tout cas pour nos esprits. Là, il y a des données qui le montrent. Chez les enfants, par exemple, vous voyez qu'en fonction de l'âge, 12-13 ans, le fait d'avoir été exposé dans l'année au suicide d'un camarade de classe va augmenter le risque, va augmenter, multiplié par 6, le risque d'avoir soi-même des idées suicidaires, va augmenter par 4 le risque de faire une tentative de suicide. Alors, c'est multiplié par 4, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même quelque chose et qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe rien que par le fait de la proximité d'un suicide dans son environnement. Même pour des gens qui seraient moins proches, pas un camarade de classe, mais quelqu'un dans l'entourage, eh bien, rien que cette exposition-là va augmenter le risque. On connaît aussi un autre aspect de voir la contagion, c'est de voir l'afflux qui peut exister sur ce qu'on appelle les hotspots, avec des endroits et qui, à partir du moment où va être médiatisé le fait qu'il y a des suicides sur tel endroit, sur tel spot de voie ferrée, sur tel pont, sur tel immeuble, même sur une pendaison sur un arbre, eh bien le risque de voir un deuxième suicide, un troisième et un xème sur le même endroit avec la même méthode est important. Donc cet aspect de contagion est bien sûr à prendre en considération. Donc il y a cet aspect de contagion par proximité, vous êtes proche de quelqu'un qui se suicide, ça augmente votre risque d'avoir des idées suicidaires et de passer à l'acte. Et puis, il y a un autre mode de contagion qui est la plus à distance, véhiculée par les médias, mais ce n'est pas quelque chose du XXe siècle, parce que vous voyez que la première image ici à gauche représente une illustration des souffrances du jeune Werther de Goethe. Et vous savez que ce roman a été rendu célèbre sur toute l'Europe, et c'est ce qui a fait la célébrité de Goethe, mais surtout parce qu'il y a eu une vague de suicides sur l'ensemble de l'Europe qui a accompagné la sortie de ce livre, à tel point qu'il a été interdit dans certains pays européens au moment de sa sortie. Donc vous voyez que cet effet-là, et c'est pour ça qu'on appelle cet effet Werther, cet effet de contagion véhiculé par un média, là en l'occurrence il s'agit d'un roman, eh bien existe. Et on le retrouve, il y a beaucoup de littérature au sujet d'événements médiatisés qui ont malheureusement provoqué une contagion suicidaire. Bien sûr, le suicide de Marilyn Monroe, et on sait maintenant, enfin il y a des analyses qui, pourquoi ce suicide a eu autant de tout ça, parce que suicide de quelqu'un, d'une star très glamourisée, beaucoup d'identification au sujet, des photos d'elle, vous voyez, presque nue sur un lit, exactement la dose de barbiturique qu'elle a pris, des conditions, une liaison peut-être secrète avec le président des États-Unis, enfin tout est là pour augmenter les processus d'identification et faire. Et donc, il y a eu une augmentation tout à fait considérable, hein, et surtout en Californie, dans la région de Los Angeles, mais sur la planète. En France, Sœur Sourire aussi, en effet, une vague de suicides à la suite de le suicide de Dalida, ou d'autres exemples encore sur la planète. Un ingénieur se suicide à Hong Kong avec du charbon de bois en calfeutrant son immeuble. Et le journaliste qui écrit, dit juste, il avait un visage tout rose et souriant. Et donc, suggérant qu'on peut se suicider sans douleur, en gros, hein, mais sans que ça soit explicite. Et il y a eu une vague de suicides à Hong Kong, à tel point que le charbon de bois, le barbecue, a été interdit à Hong Kong au profit des dispositifs électriques, etc. Donc, cette modalité de suicide existe et à prendre en considération. Et là, il y a des actions, bien sûr, de protection à mener. C'est-à-dire, là, on peut définir des populations vulnérables, celles qui vont s'identifier davantage, celles qui ont... C'est pas n'importe qui. C'est des gens qui peuvent déjà avoir des idées suicidaires ou bien chez qui l'événement va déclencher des idées suicidaires, etc. Donc, des personnes, peut-être, qui ont une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité, qui peuvent être identifiées. Et puis... Je vous montre cet exemple qui est tout à fait intéressant. C'est loin de chez nous. C'est la Micronésie, dans l'océan Pacifique. Un endroit où il ne se passe pas grand-chose. La preuve, c'est que pendant très longtemps, le suicide était un événement extrêmement rare, hein, qui n'a rien à voir, 7 pour 100 000, enfin, quelque chose de tout à fait rare. Et puis, il y a un événement, une sorte de remake shakespearien en Micronésie, sur l'île de Guam, avec un couple qui va se suicider pour une histoire de conflits familiaux, etc., tous les deux vont se suicider. Cet événement va être très médiatisé, susciter un remous émotionnel parmi les jeunes. C'était un couple jeune, hein, bien sûr, qui s'est suicidé. Et vous voyez, donc ça s'est passé fin des années 80, et à partir de ce moment-là, il y a eu une augmentation tout à fait considérable, avec un taux de suicide qui atteint les taux de suicide qu'on observe, qu'on peut observer en France, par exemple. Enfin, quelque chose de totalement inédit dans cet endroit insulaire. Et puis, l'autre intérêt de cette histoire-là, c'est que vous voyez la flèche verte, à partir des années 2000, il y a eu une volonté des autorités de l'île de Guam de faire de la prévention du suicide, de proposer des ressources pour les gens qui seraient en difficulté, qui auraient des idées suicidaires. Et donc, cette deuxième partie est tout aussi intéressante, puisqu'elle montre que, autant il peut y avoir une contagion suicidaire dans le mauvais sens, autant une politique de prévention peut être efficace, parce que là, on assiste réellement à une rupture, hein, à une diminution très nette et drastique. Donc, ce qui est vraiment un argument très fort pour montrer que la prévention peut être efficace dans ce domaine. Et donc, on oppose cet effet de contagion Werther à l'effet Papageno. Donc, c'est justement, et pourquoi Papageno? Parce que Papageno, si vous connaissez un peu, c'est un autre opéra, hein, de Mozart, celui-là, le premier étant de Massenet, et où Papageno, qui est un oiseleur, qui... a rencontré Papagena, hein, vous savez, met en scène son suicide sur scène. Vous voyez la corde qui est là, dans l'opéra de Mozart, il va se pendre. Et il y a les petits lutins qui arrivent et il dit « Mais Papageno, pourquoi tu vas te pendre ?» Il a perdu sa Papagena, il est désespéré, c'est fini, il n'a plus qu'à mourir. Et puis les petits lutins lui disent « Mais N'oublie pas, Papageno, tu as en toi les ressources pour pouvoir retrouver Papagena, ta petite cloche magique. Ah, c'est vrai, il sort sa petite cloche magique, il sonne, et Papagena réapparaît, et il ne se suicide pas, et tout ça. Donc, c'est l'idée que des ressources peuvent être là, peuvent être disponibles, et aller à l'encontre d'idées suicidaires. Et donc, même s'il y a identification, un phénomène tel que le suicide de Marilyn Monroe, etc., eh bien, en fonction de l'offre de l'environnement, eh bien, le sujet qui a ces suicidaires peut aller vers le comportement suicidaire, ou si l'entourage, s'il y a des liens, s'il y a une offre, si on connaît les ressources possibles, eh bien, il peut y avoir un accès aux soins et une promotion de l'entraide. Donc voilà un petit peu l'idée proposée par Papageno, donc voilà le site, et donc l'idée que si le suicide est contagieux, eh bien, l'entraide et l'accès aux soins peut aussi être un phénomène qui a ça aussi, qui a ses qualités de contagiosité. Et puis enfin, et je termine, puisqu'il me reste quelques secondes, sur les autres aspects, mais qui sont encore en chantier, les autres constituants de ce kit. Donc, renforcer l'information du public à travers la mise en place d'un portail national Internet. Donc ça, c'est en collaboration avec Santé publique France, destiné au grand public, aux bénévoles, aux professionnels qui veulent connaître. Là, c'est un accès aux connaissances et aux connaissances qui peuvent être localisées. Et puis enfin, et là, c'est un chantier actuel, c'est un chantier assez important parce que c'est aussi interférer avec les lignes d'urgence telles que le SAMU, etc. Et donc, c'est un chantier en cours sur un numéro d'appel unique autour du suicide, à destination bien sûr des sujets concernés, mais ça peut être aussi des proches qui sont bien en difficulté hein, lorsque quelqu'un émet des propos suicidaires, ou des professionnels aussi en difficulté qui n'ont pas forcément les compétences. Et donc avec derrière des professionnels, là formés pour le coup à l'intervention téléphonique, à l'évaluation et à l'orientation, en fonction des ressources locales, c'est-à-dire avec une redistribution locale des solutions qui vont être proposées. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, en conclusion, vous voyez que le cœur de la prévention du suicide, c'est il y a quelque chose d'humain, bien sûr, éminemment humain dans la prévention du suicide, c'est autour des liens, que ce soit à travers le téléphone, comme je viens de le dire, du recontact, du travail sur les croyances, sur les idées reçues. Et c'est un exemple, la prévention du suicide, qui montre son efficacité dans différents pays, et on l'espère aussi en France. C'est aussi un exemple tout à fait important pour montrer que la prévention peut exister dans une discipline hein, qui est la psychiatrie, dans laquelle la place de la prévention était encore extrêmement restreinte, et c'est un angle d'ouverture tout à fait intéressant. Je vous remercie.
Merci Pierre pour ce très joli topo, en même temps optimiste et agréable de voir qu'on peut effectivement intervenir, améliorer les choses. En toute modestie, tu n'as pas rajouté qu'en fait, vous avez aussi des liens privilégiés avec les écoles de journalistes, puisque vous allez directement expliquer aux jeunes qui se forment dans le milieu journaliste que la manière dont on communique autour d'un suicide est déjà à un impact. Et plus tôt les jeunes sont formés, plus après on peut changer les choses. Et bravo aussi pour le modèle vigilance qui est vraiment heuristique et qui est en train de faire école où finalement à peu près toute la France commence à utiliser ce type d'apport tout à fait passionnant pour essayer de réduire la mortalité suicidaire en France qui reste trop élevée.